je revoyais des photos qui sont assez connues de Picasso et Léris.
Francis Marmande.
Une après-midi, je pense que c'est à Vence ou c'est dans le sud, enfin voilà. Et visiblement, ils ne sont plus des gamins, hein. Mais visiblement, l'après-midi est bonne, quoi. Donc, ils sont déguisés. Alors, tantôt, l'un avec une guitare, à un autre moment, torero, enfin, que sais-je. Ils sont mis n'importe quoi sur la tête. Mais Picasso a cette allure de peintre qu'on lui connaît, c'est-à-dire une sorte de chemise ou de t-shirt comme ça. Alors que Léry s'est déguisé, mais sous le déguisement, il y a costard, quoi. Il y a soin. Il n'y a pas beaucoup d'abandon, oui, de relâchement. Mais là, je crois que la rencontre avec Picasso est aussi la rencontre d'une différence, hein, et d'une différence extrêmement bien vécue. C'est une amitié très maintenue, très constante, très profonde, où finalement la galerie Canveller-Léris n'a pas du tout joué le rôle d'organisation de cette amitié, comme on pourrait le croire, mais c'est le contraire, quoi. C'est la galerie a canalisé ce que cette amitié avait fomenté, et puis au bout d'un moment, c'est devenu aussi une sorte d'association, enfin, avec Louise Léris, avec Canveller, très productive. Mais les trois textes de Léris signalent également sur Picasso la force d'appréhension qu'il pouvait avoir, et donc cette présence interprétative, peut-être autour des artistes qui, eux, étaient en affaire avec la galerie. C'est très curieux aussi, comme ça marche bien, comme complémentarité non prévue. Enfin, c'est comme si il y avait quelqu'un prévu au paysage, Léris, dans l'entourage des peintres, qui échappe à ce qui devait être de l'ordre de la négociation et du travail, quoi, et qui devient l'intime, l'ami, le modèle. Enfin, il en rajoute énormément sur sa disgrâce physique et toutes sortes de travers, mais il y a très peu d'écrivains du XXe siècle qui auront été autant portraiturés et par les plus grands. Le visage a quelque chose évidemment qui requiert, qui appelle, hein. Il paraît un peu disproportionné au corps, hein. Il a l'air toujours d'avoir une grosse tête, enfin, mais il y a quelque chose d'immobile. D'un vieillissement très lent aussi, alors qu'il a considéré qu'il était vieilli très tôt, d'une certaine manière, sont les premières lignes de l'âge d'homme, et d'une sorte de stagnation très discrètement évolutive des traits, comme ça, avec le regard très, très perçant et très doux, et la bouche bien dessinée, mais qui fait que tout de même, ils s'y sont mis à beaucoup, quoi, pour essayer de le fixer sur le papier. Et je pense que dans l'amitié avec Picasso, il y a aussi une dimension qu'on a toujours beaucoup de mal, avec Bataille de même, à imaginer, qui est une part de délire adolescent. Les photos le prouvent. C'était à 50 ans, deux gaillards qui étaient capables de faire l'épître. Dit comme ça, ça a une certaine trivialité, mais il y avait peut-être, l'un rendant à l'autre cela, une sorte de fraîcheur qui échappait, pour l'un au monde de la peinture, pour l'autre au monde de la littérature, et pour les deux au monde de la galerie. C'était autre chose, sans compter que les risques a fait tout de même une grande part de son œuvre autour du malheur d'aimer, de désirer les femmes, de ne pas les trouver, de les trouver mal, de s'en sortir boiteusement, etc. Mais ça a été d'une certaine manière un amoureux masculin formidable, quoi. Donc là, je me fiche bien de savoir la part de ce que les cliniciens appellent l'homosexualité, mais ça a été un amoureux masculin formidable. En particulier avec les artistes et les intellectuels.
Extrait d'Aurora, roman unique de Michel Léris.
Il m'est toujours plus pénible qu'à quiconque de m'exprimer autrement que par le pronom « je ». Non qu'il faille voir là quelques signes particuliers de mon orgueil, mais parce que ce mot « je » résume pour moi la structure du monde. Ce n'est qu'en fonction de moi-même, et parce que je daigne accorder quelque attention à leur existence, que les choses sont. Si quelque objet survient par hasard qui me fasse sentir combien sont restreintes réellement les limites de ma puissance, je me roidis dans une folle colère et j'invente le destin comme s'il avait été décrété de toute éternité qu'un jour cet objet apparaîtrait sur mon chemin, trouvant dans cette intervention son unique raison d'être. Ainsi, je me promène au milieu des phénomènes comme au centre d'une île que je traîne avec moi. Les perspectives, regards solidifiés, pendent de mes yeux comme ces longs filaments que le voyageur recueille involontairement par tout son corps et déplace avec lui, bagages de lianes ténues, lorsqu'il traverse la forêt tropicale. Je marche, et ce n'est pas moi qui change d'espace, mais l'espace lui-même qui se modifie, modelé au gré de mes yeux qui l'injectent de couleurs pareilles à des flèches de curare, afin que sans faute il périsse sitôt mes yeux passés. Univers que je tue avec un merveilleux plaisir, repoussant du bout du pied ses ossements incolores dans les chantiers les plus obscurs de mon souvenir. Ce n'est qu'en fonction de moi-même que je suis, et si je dis qu'il pleut ou que la mer est mauvaise, ce ne sont que périphrases pour exprimer qu'une partie de moi s'est résolue en fines gouttelettes, aucune autre partie se gonfle de pernicieux remous. La mort du monde est égale à la mort de moi-même. Nul sectateur d'un culte de malheur ne me fera nier cette équation. Seule vérité qui ose prétendre à mon acquiescement. Bien que contradictoirement, je pressente parfois tout ce que le mot « il » peut contenir pour moi de châtiments vagues et de menaces monstrueuses. C'est magnifique, ce texte.
Ah ouais, c'est bien.
Hein?
Ouais.
Mais je ne sais pas le dire.
Non, vous l'avez très bien lu.
Non.
C'est en 1939 que Michel Léris, qui avait déjà écrit et publié les poèmes depuis 1925 et fréquenté le groupe surréaliste et collaboré à la revue Documents de Georges Bataille ou encore publié sa recherche d'ethnologue sous le titre fameux L'Afrique fantôme, 1934, c'est en 1939 que Michel Léris, issu d'un milieu bourgeois très classique, publie L'Âge d'homme. Inauguré par le fameux prière d'inséré de la littérature considérée comme une tauromachie. Texte où il souhaitait que la littérature comporte la même dose de risque et d'engagement que la tauromachie. Avec L'Âge d'homme, date le début d'une écriture où l'écrivain se risque à parler de lui-même, et rien que de lui-même, dans un espace où il est question de la mort, du sang, du sexe, de la difficulté de vivre. L'œuvre de Léris est ainsi la première, avec celle de Jouve, avoir comme condition de possibilité la psychanalyse. Il était d'ailleurs entré en psychanalyse. non en tant que théorie, mais en tant qu'expérience vécue. Jean-Bertrand Pontalis a pu qualifier l'œuvre de Léris de psychanalyse sans fin. Mais loin d'être une confession nue, l'œuvre de Léris, à travers les figures de Judith ou de Lucrèce par exemple, est une mise en scène théâtrale et mélodramatique de ses fantasmes. Le cycle de la règle du jeu, Bifure, 1948, Fourbi, 1955, Fibrille, 1966, et enfin Frêle Bruit, 1965, va approfondir et répéter cette quête de soi. Léris fouille dans les mots, il fait de l'étymologie subjective, faisant sentir combien l'existence...
L'âge d'homme. Je viens d'avoir 34 ans, la moitié de la vie. Au physique, je suis de taille moyenne, plutôt petit. J'ai des cheveux châtains coupés courts afin d'éviter qu'ils ondulent, par crainte aussi que ne se développe une calvitie menaçante. Autant que je puisse en juger, les traits caractéristiques de ma physionomie sont une nuque très droite, tombant verticalement comme une muraille ou une falaise, marque classique, si l'on en croit les astrologues, des personnes nées sous le signe du taureau. Un front développé, plutôt bossué, aux veines temporales exagérément noueuses et saillantes. Cette ampleur de front est en rapport, selon le dire des astrologues, avec le signe du bélier. Et en effet, je suis née un 20 avril, donc aux confins de ces deux signes, le bélier et le taureau. Mes yeux sont bruns, avec le bord des paupières habituellement enflammées. Mon teint est coloré. J'ai honte d'une fâcheuse tendance aux rougeurs et à la peau luisante. Mes mains sont maigres, assez velues, avec des veines très dessinées. Mes deux majeurs, incurvés vers le bout, doivent dénoter quelque chose d'assez faible ou d'assez fuyant dans mon caractère. Ma tête est plutôt grosse pour mon corps. J'ai les jambes un peu courtes par rapport à mon torse, les épaules trop étroites relativement aux hanches. Je marche le haut du corps incliné en avant. J'ai tendance, lorsque je suis assis, à me tenir le dos.
Bon, à mon avis, il faut remonter à 1929, qui est pour Léris une date extrêmement importante, qui est la date de sa rupture avec le surréalisme.
Denis Ollier.
La date de la rupture conjointe de Bataille, de Léris et de toute l'équipe du cadavre, c'est le nom du pamphlet qu'ils ont signé contre Breton. Et l'importance de cette rupture pour Léris, à mon avis, est double. La première, c'est que, d'une certaine manière, il renonce à un certain idéal poétique et il va se lancer petit à petit dans une approche scientifique de la réalité qu'il conduira à l'ethnographie, d'une part. Et par ailleurs, il va renoncer, c'est un mouvement simultané et parallèle, il va renoncer au modèle de l'écriture automatique et se lancer dans une entreprise autobiographique. Donc d'une certaine manière, en 29, une fourche assez fondamentale se met en place qui fait qu'il quitte la poésie pour la science et l'écriture automatique pour l'autobiographie. Et c'est dans ce mouvement scientifique ou méta-scientifique que le collège de sociologie va se former, avec un mélange de marxisme, de sociologie primitive, de critique politique du monde contemporain, qui va s'exprimer de manière différente selon les diverses voix qui participeront à cette institution.
Denis Ollier, on a pu dire que la contribution de Michel Léris, qui s'intitule « Le sacré dans la vie quotidienne », qui a été donc prononcée en 1938 et publiée en 1939 dans le Collège de sociologie, par sa date et son matériau, constitue la charnière qui articule l'âge d'homme à la future règle du jeu. Que pensez-vous de cette analyse ?
D'autant mieux que j'ai l'impression que vous me citez.
Expliquez-vous plutôt.
Bon, les choses sont assez simples.
Il faut quand même rappeler que à cette date-là, il a publié L'Afrique fantôme, hein, déjà.
Alors, Léris travaille avec, je dirais, des tiroirs ou des dossiers. L'âge d'homme est une autobiographie qu'il a écrite alors et parallèlement, c'est pas qu'il était en psychanalyse avec Adrien Borel. Et entre autres pour cette raison, L'âge d'homme, c'est une autobiographie qui exploite ce que j'appellerais le tiroir sexualité. C'est une série de souvenirs liés à la sexualité, le rapport entre sexe et mort, dans des fantasmes enfantins, etc. Mais l'axe directeur est, conformément sans doute à une certaine pratique freudienne, de nature sexuelle.
C'est ce qu'il dira lui-même, d'ailleurs, dans sa postface en 1944-45.
Voilà, tout à fait. Avec Le sacré dans la vie quotidienne, il ouvre, pour des raisons assez complexes et intéressantes, il ouvre un autre tiroir, qui est le tiroir langage. Cela donne l'exploration linguistique de cette linguistique enfantine, de cette expérience enfantine du langage, qui constituera la substance des six premiers chapitres de Bifur, et dont effectivement la première amorce est Le sacré dans la vie quotidienne, dans laquelle il y a une tentative d'articulation de ces expériences linguistiques enfantines avec la catégorie du sacré.